Les enjeux internationaux.
Bonjour Thierry Garcin.
Et puis nous parlerons d'ailleurs de la Grèce, demain matin 6h50. Jean-Luc Racine, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur de recherche émérite au CNRS, grand spécialiste de l'Asie du Sud. On va parler de la politique énergétique indienne. Alors, sans énergie, il n'y a pas de croissance. En Inde, en plus, il y a presque 1,3 milliard d'habitants. Des défis considérables à relever en matière énergétique. Alors, heureusement, la croissance indienne est actuellement bonne, quelques 7%. Et même la Chine, d'ailleurs, a quelques soucis à se faire en ce qui concerne son bouquet, comme on dit, son bouquet énergétique. Il y a des parentés avec la Chine, d'ailleurs, en ce qui concerne l'énergie. Considérable dépendance du charbon national, essentiel pour la production électrique, mais fort polluant. Forte dépendance du pétrole du Moyen-Orient, arabe et iranien, voire malaisien. Et puis, par modeste, de l'énergie nucléaire. Et puis, il faudra peut-être parler, évidemment, des énergies renouvelables. Quel est quels sont les besoins qui semblent absolument considérables à terme de l'Inde?
Ouais, c'est une question absolument cruciale pour un pays qui est émergent. On peut discuter le sens du mot, du concept de pays émergent, mais l'Inde est véritablement un pays émergent, avec cette ambiguïté d'une croissance forte. Hein, la croissance indienne, selon les sources nationales, est aujourd'hui supérieure à la croissance chinoise, dont on sait que elle est en train d'atterrir tout doucement. Mais il y a fondamentalement deux obstacles structurels. D'une part, la faiblesse relative des infrastructures indiennes, et d'autre part, la question de la sécurité énergétique. Donc, sans énergie, pas d'industrie, et l'un des enjeux majeurs de la politique économique de l'actuel gouvernement nationaliste de Narendra Modi, c'est de reconstituer une base industrielle beaucoup plus solide. Mais tout cela touche aussi tout bêtement à la vie quotidienne. Vous l'avez dit, la population indienne, c'est aujourd'hui plus d'1,2 milliard d'habitants. Il y a à peu près 300 millions d'habitants qui sont hors de réseaux énergétiques conséquents. Sans parler des coupures d'électricité qui peuvent toucher les grandes villes.
Il y a eu une panne célèbre il y a quelques années.
Oui, la panne célèbre globale. De 2012 où quasiment toute l'Inde du Nord était privée d'électricité pendant 48 heures. Donc, ce qui posait en réalité la question non pas tant de l'accessibilité de l'énergie, mais de la faiblesse des réseaux, de la transmission d'un État à l'autre. Donc, ce sont des questions absolument cruciales. Et a fortiori pour un gouvernement très féru de rhétorique et qui a mis en avant le nouveau mantra économique de Make in India. Et le Make in India, c'est un appel aux investisseurs étrangers pour venir investir dans le pays, non pas à la bourse de Bombay, mais véritablement dans le potentiel industriel. Donc cette question de la sécurité énergétique est absolument décisive. À tous égards, la dépendance du charbon, qui est un grand classique, c'est la même chose pour la Chine, pose évidemment un problème vis-à-vis des émissions de gaz à effet de serre. Et même si le charbon est tout à fait déterminant, hein, c'est à peu près 60% de l'approvisionnement pour les ressources énergétiques. L'Inde importe aussi du charbon parce que il y a certaines qualités comme le coke pour la scierie. Donc ça, c'est un véritable problème comme dans beaucoup d'autres pays. Mais pour le reste, pour faire bref, l'Inde importe les deux tiers de son pétrole et les deux tiers de ces deux tiers viennent du Moyen-Orient.
Oui, c'est la pompe à essence du Moyen-Orient et de la Chine et de l'Inde.
C'est la pompe à essence du Moyen-Orient et ça n'est pas un hasard. Si Narendra Modi, le Premier ministre, a fait une visite remarquée dans les Émirats en 2015, a visité l'Arabie Saoudite début 2016... et vient de signer de nouveaux accords avec l'Iran. Il était à Téhéran ces tout derniers jours.
D'ailleurs, c'est curieux de voir que finalement, il y a quand même une grande dépendance du pétrole en propre de la part de l'Inde en provenance de pays arabes, par définition musulmans, et musulmans non arabes.
Oui, mais ça, je veux dire, c'est
logique. La proximité.
C'est une question de proximité. C'est une question de proximité. C'est la même chose pour le gaz. Hein. C'est Oman, Oman qui est le premier pourvoyeur. Tout ça est lié aussi à des questions de coûts, de transit. Ça pose aussi évidemment la question de la sécurité des convois maritimes, aussi bien pour le pétrole que pour le gaz liquéfié. Pour le reste, l'Inde, j'entends par là, et les grandes compagnies énergétiques d'État et les grandes compagnies énergétiques privées déploient aujourd'hui une stratégie globale. Les Indiens sont présents en Sibérie, dans l'extrême-orient soviétique. Ils ont essayé de trouver du pétrole sous-marin au large du Vietnam, donc en mer de Chine. Ça a valu quelques interrogations vis-à-vis de Pékin. Ils sont présents en Afrique, ils sont présents en Amérique latine.
Alors en ce qui concerne donc les fossiles, on l'a vu, et maintenant peut-être avant les renouvelables, l'énergie nucléaire.
Alors l'énergie nucléaire, c'est le paradoxe, parce qu'on en a énormément parlé à partir du moment où George W. Bush a voulu aller beaucoup plus loin que ne l'avait fait Bill Clinton dans le rapprochement avec l'Inde. Et Bush s'est battu avec l'appui de Paris et de Moscou, entre autres, pour donner à l'Inde un statut absolument unique, puisque l'Inde, non signataire du traité de non-prolifération, a obtenu en 2008 le principe d'un accès standardisé au marché et de l'uranium et des technologies nucléaires. Le paradoxe, c'est que depuis 2008, elle a à peu près rien fait, sauf signer une loi en 2010 qui va à l'encontre des pratiques internationales et qui fait qu'en cas de catastrophe nucléaire, les responsables ne sont pas seulement les opérateurs sur place, mais aussi les entreprises ayant fourni la technologie. Alors ça, c'est évidemment un frein qui fâche quelque peu et les producteurs américains de technologie nucléaire et Areva, qui n'a sans doute pas besoin de ça. Ce qui est clair, c'est que depuis 2008, aucune nouvelle centrale liée aux possibilités ouvertes par cette révolution du statut de l'Inde en matière de nucléaire civil, aucune n'a été construite.
Alors, il y a la question des renouvelables. On pense évidemment tout de suite au soleil et au vent. Est-ce que c'est important ?
Alors, dans la rhétorique du gouvernement, c'est très important. Il existe de longue date une mission nationale solaire. Narendra Modi a jugé bon, lui, de créer une alliance solaire universelle, s'il vous plaît.
Pourquoi pas ? Ça n'engage à rien.
Il y a un problème pourtant, enfin bon, c'est un choix légitime évidemment de jouer la carte du solaire. Le problème, c'est celui de la technologie.
Et de la distribution aussi.
La distribution, ça c'est un problème général.
Oui, c'est ça.
Qui dépasse
un déficit général.
Le solaire. Le solaire a beaucoup d'avantages évidemment, entre autres pour les régions isolées. La question, c'est que l'OMC vient de condamner l'Inde pour ses subventions jugées trop fortes dans l'industrie des panneaux solaires. Ce sont les Américains qui sont derrière cette condamnation. Et ce sera un des grands enjeux, parce qu'on sait bien que sur le marché international du solaire, les Chinois offrent des prix très compétitifs. Les Indiens ne sont pas encore en mesure de les combattre sur ce plan.
Juste un mot pour terminer, Jean-Luc Racine, à propos de la COP21 et des engagements internationaux de l'Inde, donc à l'égard de la lutte contre le réchauffement climatique.
Oui, alors l'Inde avait quelque peu inquiété la diplomatie française, parce qu'elle était sur une position, je ne dirais pas rebelle, mais enfin assez ferme. C'était le vieux principe mis en avant de longue date, responsabilité commune mais différenciée. En réalité, l'Inde, à la COP21, a joué le jeu. Puisque les bases finalement lui convenaient, à savoir chacun définit ce que sont ses propres engagements, et les engagements indiens en gros, c'est d'avoir vers 2035 à peu près un tiers d'émissions de moins que ce qu'étaient les émissions indiennes en 2005. Ceci étant, il faut rappeler que l'Inde, c'est le troisième émetteur de gaz à effet de serre dans le monde. Donc là encore, l'enjeu
après
est important.
Après la Chine et les États-Unis, bien sûr. Merci beaucoup, Jean-Luc Racine, donc consulteur.fr, pour écouter l'émission, pour la télécharger. Et demain, comme prévu, la Grèce.
Merci beaucoup, Thierry Garcin.